sa femme et le petit prince. On pourrait dire, c'est une comptine sexiste, on ne la chante plus, pas très constructif. Par contre, on pourrait demander aux enfants, qui y a dans l'histoire, comment vous savez, qui ils sont pour les amener à réfléchir et à se rendre compte, eux, que bah, c'est une comptine dans laquelle il y a trois personnages, deux garçons et une fille. Donc il y a déjà dissymétrie. Sur les trois personnages, l'empereur et le prince ont un titre propre, alors que le personnage féminin n'a pas de titre. C'est la femme de l'empereur. Donc en fait, elle a, pour parler de l'impératrice, le même terme pour parler de la femme du boulanger ou de n'importe quelle femme du monde. Donc on voit bien qu'ici, il y a une description qui est déjà genrée et qui va induire dans une comptine banale une représentation différente de la façon dont on va considérer les hommes des femmes. Et ça, c'est pas tellement à bannir, c'est intéressant d'inviter les enfants à réfléchir à ça, d'en prendre conscience, de proposer une autre version de la comptine, de se l'approprier, de la chanter, pour que, en fait, ils puissent développer un sens critique et que ça ne soit pas diffusé, comme ça a été longtemps le cas. C'est qu'à force d'être exposé dans un monde où on fait ça tout le temps, eh bien, ça devient évident qu'on est conditionné, comme ça, à considérer que le masculin l'emporte. Ça, c'est valable partout, parce que l'empereur, sa femme et le petit prince, le masculin l'emporte. Sur les personnages dans les histoires, sur les contes de fées, alors Disney plus que les contes de fées en général, qui sont moins dans cette vision-là, mais ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir travailler. Et cette manière dont on va considérer les enfants, dont on va leur permettre de développer telle compétence, de se comporter de telle ou telle manière, certaines compétences étant davantage développées chez les garçons que chez les filles. On dit toujours que les femmes sont plus empathiques, mais parce que les femmes, on les encourage à jouer avec des poupées, à jouer avec des jouets qui vont travailler les émotions des autres. Alors qu'un petit garçon à l'école maternelle qui va vouloir jouer avec une poupée, il y a de grandes chances que la pression, souvent des autres enfants, peut-être parfois malheureusement des adultes, le dissuade d'utiliser ça, parce que ça, c'est pas un jouet pour les garçons. Donc il va jouer avec des voitures. Et donc c'est normal qu'après, quand il se retrouve avec un enfant dans les bras des années plus tard, il soit moins à l'aise que quelqu'un qui s'est tellement entraîné. Et dans la même image, on dit toujours les femmes peuvent faire plusieurs choses à la fois, pas les hommes. C'est faux, c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. Elles peuvent faire plusieurs choses à la fois parce qu'elles sont entraînées à faire plusieurs choses à la fois. Si un homme vous l'entraîne à faire plusieurs tâches, il saura le faire, il n'y a pas de problème. Mais culturellement, c'est presque devenu quelque chose de l'ordre de la blague. On va dire bah, les femmes savent faire plusieurs choses à la fois comme si c'était par nature, alors qu'en fait c'est construit. Ça, c'est parce qu'on l'a développé. Des hommes qui se retrouvent à devoir s'occuper de leurs enfants parce que leur femme a une mission et qu'ils ont un enfant en bas âge, et bah, cet homme, vous allez voir que très vite, s'il s'occupe d'un bébé pendant 3 semaines, même moins que ça, très vite, il saura faire plusieurs choses à la fois. C'est parce qu'il n'aura pas le choix. Et comme les femmes n'ont pas le choix, donc elles développent, elles ont la compétence.
Les crises chez les personnes avec un trouble du neurodéveloppement expriment souvent un besoin non verbal, comme la fatigue ou le bruit, et il s'agit de comprendre ce besoin plutôt que de punir. La neurodivergence, qui inclut autisme, TDAH ou haut potentiel, se repère mieux avec un diagnostic précoce permettant un accompagnement efficace. La médiatisation aide à libérer la parole, mais le diagnostic reste plus difficile chez les filles. L'essentiel est de passer du jugement des comportements à la compréhension des besoins de chacun, en déconstruisant les stéréotypes et en développant l'esprit critique.
Il y a des éléments qui sont visibles. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait que la personne a un trouble du neurodéveloppement et qu'on lui demande avec de l'imagerie cérébrale de faire certaines tâches, on peut constater que des zones du cerveau s'activent un petit peu différemment ou pas exactement comme la plupart des gens. Ça, on le voit et on sait que statistiquement, des personnes qui ont de l'autisme en particulier, leur cerveau peuvent fonctionner parfois de manière différente, s'activer de manière différente, c'est pas les mêmes zones. Mais ce n'est pas assez fin et pas assez précis, pas assez puissant d'un point de vue statistique pour que quelqu'un dont on s'interroge sur un éventuel autisme le concernant, on fait de l'imagerie cérébrale et au regard des résultats, on va dire il y a ou il n'y a pas de l'autisme. Le diagnostic de l'autisme et des TND en général reste clinique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'entretien, les comportements de la personne qui permettent d'eux. Aujourd'hui, dans l'état des lieux des connaissances, longtemps on a pensé que les personnes avec autisme, elles avaient certaines zones du cerveau qui étaient atrophiées, qui étaient plus grosses, qui étaient plus petites, parce que en faisant des cohortes, c'est qu'on a regardé plein de cerveaux de personnes autistes il y a très longtemps, et on a trouvé que le cervelet était un petit peu différent des cervelets des personnes tout venant. Sauf que ça, ça a été déconstruit par d'autres études qui mettent en évidence que c'est pas si simple, c'est pas si flagrant. Donc ce n'est pas du tout suffisant et on n'a pas d'éléments purement biologiques aujourd'hui, en 2025, qui nous permettent de dire on va regarder le cerveau de la personne, les organes, la taille des organes, le fonctionnement, les interactions, et ce sera suffisant pour poser un diagnostic. Peut-être qu'un jour on y viendra, quand on aura de l'imagerie plus fine que ce qu'on a aujourd'hui et qu'on comprendra mieux le cerveau, encore mieux le cerveau, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas hein, dans le fond du cerveau aujourd'hui, peut-être qu'on y viendra. Mais en tout cas aujourd'hui, on n'en est pas là. On n'a pas de perspective à court, moyen, long terme de faire du diagnostic cérébral. Pourtant, c'est très courtisé parce que ce serait quelque chose qui, pour certains chercheurs, serait très intéressant d'arriver à mettre en évidence. Certains travaillent dessus, mais aujourd'hui, on n'en est pas là du tout. comme cette forme-là, elle arrive là, et pour certains mammifères, on constate aussi ces comportements-là. Il y a des études qui peuvent être montrées où on peut provoquer ça chez des souris. On peut constater que certains individus dans le règne animal peuvent avoir des comportements très atypiques qui pourraient évoquer ce que nous, on associe au trouble du neurodéveloppement. Dans ce sens-là, c'est naturel dans le sens où ça arrive. Il y a toujours eu des personnes avec ce fonctionnement-là, même si là, aujourd'hui, avec les facteurs environnementaux, on montre que ça augmente un petit peu, c'est quand même quelque chose qui a toujours été là. Donc, il y a un côté naturel. La différence, c'est que forcément, on comprend moins bien chez les animaux, et que pour beaucoup d'animaux, c'est une entrave à leur survie. Donc, en fait, ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir perdurer dans le règne animal, quelque part. Alors que, pour nous, le fait de faire culture, une des caractéristiques de faire culture en tant qu'être humain, c'est de prendre soin les uns des autres, de ceux parmi nous qui ont des difficultés, donc par exemple un trouble neurodéveloppement, c'est quelque chose qui va être présent. C'est quelque chose qui va permettre qu'on comprenne, qu'on accompagne ces personnes-là. Et qui fait que, évidemment, dans notre culture, aujourd'hui et avec l'essor moderne, il y a une centaine d'années, on n'est pas du tout dans les mêmes fonctionnements qu'il y a 500 ans. Ou du coup, des personnes qui avaient ces atypicités-là, selon le contexte culturel dans lequel elles évoluaient, elles pouvaient soit être amenées à disparaître très vite, qu'elles le veuillent ou non, soit amenées à être identifiées comme des divinités, selon les cultures dans lesquelles vous êtes. Ou du coup, dans certains endroits du monde, quelqu'un qui aurait ces atypicités-là pourrait avoir une vie merveilleuse garantie parce qu'on va le considérer comme l'expression d'une divinité, d'un esprit. Et donc, toute la société va prendre soin de lui, il aura une vie très épanouie. Dans d'autres endroits du monde, ça sera traité de façon beaucoup plus dure. Et qui fait que ça existe partout, dans tous les domaines, dans toutes les cultures. Donc il y a ce côté naturel, parce qu'en fait on retrouve toujours cette proportion-là, quelles que soient les origines, quel que soit le milieu socioculturel, ça existe. Maintenant, une forme d'évolution de l'espèce, ça voudrait dire un petit peu comme les X-Men, comme les mutants, que du coup il y a une mutation et que l'individu, au sens Darwin, grandisse et qu'il ait un avantage sur les autres. Ou la présence de sa mutation chez lui fait que lui, il a plus de chances de transmettre ses gènes à lui plutôt que les autres. Dans les X-Men, ils ont des pouvoirs, ils sont plus forts, donc par rapport à ceux qui n'ont pas de pouvoir, voilà. La personne qui a l'autisme ou un TND, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est plus forte? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les personnes avec TND amènent quelque chose à l'espèce. Amènent quelque chose en termes de penser vivant, penser différemment, avoir un regard différent sur le monde. Et il y a beaucoup de personnes avec autisme en particulier dont l'intelligence peut aussi permettre un pas de côté et peut apporter beaucoup à l'humanité. Donc le fait de les intégrer dans notre société, c'est une vision inclusive. C'est pas on les prend avec nous parce que nous, on fait preuve d'une grâce ou on est bien gentil et voilà, ces petits gens-là. C'est qu'en fait, ils ont leur place au même titre que n'importe qui et que leur autisme ou leur TDAH ou leur neurodivergence, pour reprendre le terme, peuvent aussi contribuer à ce qu'elles aient un regard sur le monde qui va être différent de celui de la plupart des gens. Et ce regard peut contribuer à l'évolution du monde aussi, comme celui de n'importe qui. Donc elles ont leur place. Beaucoup de personnes qui vivent avec des personnes autistes, par exemple, expliquent à quel point c'est difficile, c'est éprouvant, mais à quel point aussi ça peut les enrichir sur le plan humain et à quel point elles remercient, quelque part, le fait d'avoir cette occasion de vivre avec ces personnes neurodivergentes qui leur amènent un regard différent sur le monde et qui permet aussi de remettre en perspective les choses et qui sans doute contribuent à ce qu'on appelle le bonheur pour elles. Mon espoir, ce serait peut-être qu'on arrive à continuer à les impliquer le plus possible dans cette démarche-là, pour être sûr que nous, chercheurs, on cherche dans une direction qui serait fonctionnelle et qui répond à leurs besoins. Et pas chercher pour chercher. Parce que quand on est chercheur, souvent, on ne trouve pas. Ce qui compte, c'est l'effort qu'on déploie au service d'une cause. Et donc, mon espoir, c'est de garder toujours en tête cette cause et que cette cause elle soit co-construite avec les personnes qui en ont besoin et qui en bénéficient. Donc, de s'assurer que les personnes avec autisme, les personnes avec TND, les personnes avec TDAH et leurs proches, leurs familles, puissent être toujours interpeller et qu'on soit vigilant au fait que ce sur quoi on mobilise nos efforts dans le domaine de la recherche réponde à leurs besoins, réponde à quelque chose qui contribuerait à améliorer leur qualité de vie. Ce qui est par exemple le cas de ce qui est déployé aujourd'hui avec la cohorte Marianne.
L'autisme ne peut pas encore se diagnostiquer avec une radio ou une IRM. Le diagnostic reste clinique, basé sur l'observation et les entretiens avec des spécialistes. C'est une variation naturelle de l'humain qui a toujours existé. Selon les cultures, elle était parfois vue comme un don. Aujourd'hui, on comprend que les personnes autistes ou avec un TDAH perçoivent le monde différemment et apportent un regard unique. L'important n'est pas de les changer, mais de construire une société inclusive et de mieux comprendre leurs besoins pour améliorer leur quotidien et profiter de leur vision originale. Voilà, chers auditeurs, cette série de Repartons sur la Maison de la Recherche en santé mentale s'achève. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Repartons. En attendant, à bientôt sur nos ondes.
Repartons à écouter sur Radio HDR. Retrouvez les podcasts de Repartons sur Spotify et YouTube.
Super son des 60s. Une émission qu'elle est vachement bien présentée par Léonard Michalon. Gone, nous dit le colonel. Salut à tous et bienvenue dans le super son des 60s, le meilleur de la plus belle des décennies, vachement en vinyle et presque en direct avec au programme ce jour The Dovers. Cela, on ira faire un petit tour du côté du garage. Paula Grimes, sur laquelle, hélas, je n'ai rien trouvé. Smith, qui était un groupe californien. Les Capitols, The Gas Company. Alors, cela, c'est sûr, ne vous enverront pas de facture d'ici là. Et on va ouvrir avec notre duo. Filles, garçons, j'ai nommé un duo, un trio plutôt, Stan Getz, Astro Gilberto et ce morceau absolument sublime, Corcovado, Quiet Nights, Quiet Stars, une petite merveille de jazz bossa nova enregistré en 1964. Tout l'album est absolument superbe, il faut absolument vous le procurer. Astro Gilberto, c'est surtout celle que l'on va entendre en introduction de ce morceau. On la connaît pour avoir chanté The Girl From Ipanema. Et puis la voix masculine est assurée, elle, pour presque 90% de la chanson, par Joao Gilberto. Et au saxo, Stan Getz, voilà, on peut dire qu'ils sont trois sur ce morceau. L'auteur-compositeur, c'est Antonio Carlos Joim, s'il vous plaît. C'est lui aussi qui joue du piano sur l'album. Et auteur, le compositeur seulement, puisque l'auteur, c'est Gene Lys. Et puis à la production, Phil Ramone.
Of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely! Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. Que é felicidade, meu amor.
Tranquilles, les étoiles tranquilles aussi. Bon, on va y rester dans les étoiles avec ce Dark Moon, cette lune un peu sombre de Bonnie Guitar, enregistrée en 1960. La dame est née Bonnie Buckingham, chanteuse de country, guitariste, productrice, femme d'affaires, fondatrice du label Dolphin, 20 albums au compteur. On se doute bien que, bon, comme c'est de la country, c'est resté dans le cadre américain. Elle a commencé la guitare en autodidacte à 16 ans, et puis elle s'est produite à la campagne, là où habitaient ses parents. Elle s'est mariée ensuite, est partie à Los Angeles, est devenue musicienne de session, et puis elle s'est produite toute seule, et on peut même dire que c'est la première femme de musique country à être autrice, compositrice, interprète, et donc guitariste. Bonnie Guitar.
Because I've lost my love. Mortals have dreamed of love's perfect schemes, but they don't realize that love will sometimes bring a dark. Your splendor, dark moon. What is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my love?
On commence cette émission dans la tendresse et le cool. On va y rester avec Ted Taylor, morceau enregistré en 1963. Be Ever Wonderful, mélange de soul et un petit peu de slow collé serré. Theodore Austin Taylor, de son vrai nom, chanteur de soul donc et de blues, et qui a commencé bien entendu dans le gospel au sein des Mighty Clouds of Joy à la fin des années 50. Et puis il quitte le groupe pour une carrière en solo. Il aura un petit succès local dans le sud des États-Unis. Et puis bientôt, c'est un peu toujours la même histoire, des changements incessants de label et une carrière qui va s'arrêter à la fin des années 70. Le pauvre Ted Taylor va mourir en 87 d'un accident de voiture. Et pourtant, quelle voix magnifique, assez haut perché, il a. Traverser l'Atlantique et on va aller en France, tiens. Et on va rester toujours un peu avec des étoiles, mais dans les yeux. Et ce titre, Les Petites Amies, d'un groupe un peu oublié, les Masters, un groupe de Paris qui aura fait pas mal de concerts. Et oui, il y a eu pas mal de musiciens qui se sont succédés dans ce groupe qui n'aura enregistré qu'un seul single en 1967. À l'intérieur, on retrouve, ben tiens, René Joly, qui se paiera un joli petit hit en France en 69 avec le titre Chimène, avant de rejoindre l'aventure Starmania. On retrouve aussi Laurent Petit-Girard, qui aura, lui, une belle carrière de chef d'orchestre. Et puis, pas mal de musiciens qui s'en iront rejoindre l'underground français du début des années 70, des groupes fondamentaux et encore trop peu mis en valeur aujourd'hui, notamment Benny Radusinski, qui participera à l'aventure Balthazar.
Conserver une petite amie déconne. Mais j'ai beau travailler, je ne peux rien conserver.
On va revenir aux États-Unis en 1965 du côté de la Californie avec The Dovers, What Am I Going To Do, un petit peu de garage cool et une superbe photo. Ah, le groupe de garçons de bonne famille qui venait de Santa Barbara. Ah, ils sont très beaux, pantalon noir, pull col en V sur une petite chemise à cravate avec la raie sur le côté et le sourire Kennedy. Quatre singles pour ce groupe et une compile de tous leurs titres qui est apparue en 2009. Ils sont très influencés par les Byrds, on l'entend ici. Et puis, cette même année 2009, consécration, puisque le titre que l'on va écouter là a été samplé, par Bradford James Fox. En 1960 et on retrouve la soul mêlée de blues de Paula Grimes accompagnée ici